Alors, une question aussi, si vous acceptez pas, parce que quand on va le mettre sur le site, d'être enregistré, c'est Dominique qui le fait, à ce moment-là, vous lui faites signe, parce qu'on enregistre les questions, puisqu'on va enregistrer les réponses.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler les motifs classiques de mise en centre de rétention de demandeurs d'asile?
Une première question.
Moi, je voudrais évoquer la question des pays sûrs. La liste des pays sûrs et des pays non sûrs qui font qu'à certains moments, en s'y référant, comme vous l'expliquiez si bien tout à l'heure, on rejette certains dossiers en procédure accélérée. Une liste qui est complètement fluctuante, etc.
Moi, je voudrais savoir quel est à peu près le nombre de demandeurs d'asile par an en France et le nombre de dossiers acceptés. Et une petite comparaison de la France par rapport aux autres pays de l'Union européenne.
Ça fait trois questions.
Qu'est-ce que c'est que les apatrides?
Les autres, on en a déjà quatre, ça fera partie du deuxième film.
C'est un vrai quiz, hein. Alors, je vais répondre dans l'ordre, tout simplement. Les motifs classiques de placement en rétention d'un demandeur d'asile, c'est... En fait, il y a plusieurs cas où une personne qui demande l'asile ou qui craint des persécutions ou qui voudrait demander l'asile peut se retrouver privée de liberté. Il y a le cas d'une personne qui a peut-être demandé l'asile avant, qui a été déboutée, qui a été rejetée, qui s'est retrouvé sans papier ou qui n'avait jamais pensé à demander l'asile avant pour X ou Y raison, peut-être parce qu'il pensait que c'était plus facile d'obtenir un titre de séjour pour d'autres raisons, pour le travail, pour soins, et qui sont sans papier et qui se font contrôler et à l'encontre de qui l'administration prend une décision d'éloignement. Donc avant ça s'appelait APRF, arrêté de préfectoral de reconduite à la frontière. Maintenant, ça s'appelle OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, ce sont des décisions préfectorales, administratives, d'éloignement, de reconduite de l'étranger. Ce n'est pas à la frontière, c'est vers le pays dont il a la nationalité, généralement. Et donc ça, c'est le premier cas. Il y a aussi quelqu'un qui peut être déjà en rétention, parce qu'il a déjà été arrêté et placé en rétention, et qui, une fois en centre de rétention, veut demander l'asile. Donc ça, c'est deux cas où des personnes, à un moment ou à un autre, sont sans papier, ont une mesure d'éloignement contre elles, qui, en vue de la mise en exécution, amène la police à les placer en centre de rétention. L'idée, c'est qu'on enferme pour avoir la personne à sa disposition pour la mettre dans l'avion. Il y a un autre cas... c'est pas de la rétention, ça s'appelle de la zone d'attente. C'est des personnes étrangères qui, à la descente de l'avion ou du bateau ou du train, à la frontière avec la France ou dans des lieux qui sont des fictions de frontière avec la France, parce que l'aéroport de Roissy, par exemple, on est bien à l'intérieur de la France, mais quand on descend de l'avion, c'est comme si on n'était pas encore en France. Quand on est encore sur le tarmac, la fiction, c'est qu'on n'est pas encore entré en France. Quand on est sur le bateau et qu'on arrive à quai, c'est une fiction. C'est comme si on n'était pas encore entré sur le sol français. Et ces personnes-là, l'administration peut dire « Nous ne vous autorisons pas à entrer sur le sol français parce que vous n'avez pas de visa, parce que vous n'avez pas de passeport, parce que même si vous avez tous les documents, nous pensons qu'il y a peut-être un risque migratoire, vous n'avez pas l'air bien fiable. » Vous dites que vous êtes là pour 5 jours, mais vous avez en poche seulement 100 euros. Comme on ne peut pas payer l'avion pour l'hôtel pour 5 jours avec 100 euros, on ne vous croit pas, il y a un risque migratoire. X ou Y raison, on ne vous laisse pas entrer sur le territoire français. Et donc, on vous prive de liberté, on vous maintient avant de vous renvoyer, de vous remettre dans l'avion qui vous avait amené ici, ou sur le bateau, ou dans le train. Et ça, c'est des sas, en fait, de privation de liberté à la frontière. Donc il y en a la plus grosse zone d'attente, elle est dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est là qu'il y a 80% des personnes en zone d'attente en France. C'est environ 100 personnes chaque jour qui sont là, complètement au secret, parce que c'est visible de personne. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas visible par le citoyen. Il n'y a pas de regard de la société civile sur ces lieux. Et c'est un lieu de privation de liberté avant même d'entrer en France. C'est quand on est en gros dans l'embrasure de la porte. On n'est pas dehors, on n'est pas dedans, mais on n'a pas le droit d'entrer. Et c'est un moment crucial où les personnes demandent l'asile en disant « Laissez-moi entrer pour demander l'asile, ne me remettez pas dans l'avion. » Mais c'est dans des conditions de privation de liberté qui font que si c'est rejeté, on a 48 heures pour saisir le juge, etc. Et je reviens à ce que je disais sur le recours effectif. Sur la question des pays d'origine sûrs, c'est très bien que vous me posiez la question parce que je voulais en parler tout à l'heure et puis j'ai oublié ou j'avais pas le temps. Mais c'est terriblement lié à la question des procédures accélérées, en effet. C'est autorisé par les directives européennes, même si à la CAT, on conteste très fortement le concept, la notion et son utilisation. Mais l'OFPRA, l'administration française, peut, et le fait, établir une liste de pays qui sont considérés comme des pays d'origine sûre. Des pays qui, aux yeux de l'OFPRA, sont suffisamment démocratiques et sûrs. Enfin, voilà, c'est pas des pays où c'est trop la guerre, c'est pas des pays où il y a trop de dictatures. Ça a l'air plutôt safe. Et donc, si vous venez d'un de ces pays et que vous demandez l'asile, c'est un peu moins probable et vous êtes un peu moins crédible que si vous venez d'un pays dont tout le monde sait que c'est la guerre. Mais le problème, c'est que c'est l'OFPRA qui... Il y a plusieurs problèmes avec ça. Déjà, le concept. Parce qu'en fait, c'est une forme de discrimination sur la base de la nationalité. Puisque cette croyance selon laquelle vous êtes moins crédible, elle n'est pas fondée sur le fond de leur dossier. Ce n'est pas en fonction de ce que vous avez raconté, de votre histoire personnelle, qu'on vous croit plus ou moins. C'est juste au vu de votre nationalité. Ensuite, les conséquences, c'est que vous allez être placé en procédure accélérée avec toutes les privations de droits dont on a parlé plus tôt. Donc c'est une manière d'expédier les demandes moins crédibles. Mais aussi, le problème, c'est que l'OFPRA est jugé parti dans cette affaire. Parce que l'OFPRA n'est pas, même si officiellement c'est un organisme indépendant, ça reste une administration. Et c'est l'OFPRA qui gère le flux des demandes d'asile. Et c'est l'OFPRA qui détermine qui a droit au statut de réfugié ou pas. Donc cette liste, c'est un peu aussi une soupape de régulation pour l'OFPRA. On ne peut pas, enfin voilà, on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas d'un côté avoir à gérer le gros bouillon et en même temps d'un autre côté avoir le droit, pardon l'expression, mais de tirer la chasse d'eau quoi. Enfin, il y a un problème là. Et c'est pas indépendant. Enfin, l'OFPRA n'a pas suffisamment d'indépendance pour décider quel pays va aller sur cette liste. Or, on voit quand même que bah, y a une triste coïncidence entre les pays qui se retrouvent tout d'un coup sur la liste des pays d'origine sûre et les nationalités qui constituent les plus gros afflux de réfugiés en France. Voilà. Donc, comme par hasard, quand les demandeurs d'asile du Bangladesh augmentent de 100% en un an, peut-être parce que c'est pas la fête au Bangladesh, hein, c'est juste une hypothèse, eh bien, tout d'un coup, le Bangladesh devient un pays sûr et se retrouve sur la liste des pays d'origine sûre. Pareil pour le Kosovo. Oui, pareil pour l'Albanie.
Je voulais vous poser une question justement pour le Kosovo. Il y a des personnes qui sont venues, le Kosovo n'était pas sûr, et il est devenu sûr, et il est de nouveau non sûr. Voilà, alors, quelle est la position de l'OFPRA dans ces situations-là?
La preuve que... Alors, le problème aussi, c'est que les informations sur lesquelles se base l'OFPRA pour placer des pays sur cette liste ne sont pas transparentes, ne sont pas toujours fiables, et ne sont pas confrontées contradictoirement avec des connaisseurs des situations géopolitiques. Donc c'est souvent pour faire un peu soupape. Et comme c'est pas fiable, régulièrement, les associations, dont la CAT, on se porte partie à l'instance, saisissent le Conseil d'État, qui est le juge suprême administratif, pour lui demander de dire si le placement de tel ou tel pays sur la liste était légal ou pas. Et en 10 ans, le Conseil d'État a annulé la moitié des décisions de l'OFPRA. C'est énorme. Alors, le ministre de l'Intérieur, récemment, a dit « Mais regardez, c'est pas un problème, c'est la preuve que le Conseil d'État fait bien son travail et que tout fonctionne bien. » C'est ce que le ministre de l'Intérieur a répondu au commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe quand il lui a posé la question. Nous, on voit plutôt le signe d'un léger dysfonctionnement, quand même. Mais bon, c'est peut-être une question de point de vue. Hein. Mais voilà, ça veut dire quand même que le juge suprême français, administratif, voit qu'un coup sur deux, l'OFPRA a eu tort et a pris une décision illégale qui impacte très gravement le devenir de beaucoup de personnes. Pour le Kosovo, c'est un peu comme l'Ukraine. Jusqu'à il y a 6 mois, l'Ukraine était dans les pays d'origine sûre. Alors là, pour faire bonne figure, la France a vite réagi à retirer l'Ukraine parce que c'était quand même ridicule. Le Kosovo a été d'abord sur la liste des pays d'origine sûre. Il y a eu un contentieux et le Conseil d'État a dit que c'était en effet illégal, que c'était pas fondé, qu'il fallait le retirer de la liste. Donc on avait gagné, a priori. Mais un an plus tard, l'OFPRA a fait comme si les décisions du Conseil d'État se périmaient, peut-être comme des conserves, je ne sais pas, des yaourts, et a replacé le Kosovo à l'identique sur la liste des pays d'origine sûre, ce qui est un manque de respect total à l'égard du juge suprême, au passage. Donc on a refait un contentieux, et un an plus tard, le Conseil d'État redit que le placement du Kosovo sur la liste des pays d'origine sûre était illégal et que ce n'était pas fondé. Donc, ça fait des personnes qui sont un peu en yo-yo au niveau de la préfecture, qui sont en procédure accélérée et qu'après, on restaure un peu dans leurs droits, mais parfois le mal est fait, ils n'ont pas eu le temps d'expliquer leur affaire. Voilà, ou parfois, les préfectures ne sont pas informées de la décision du Conseil d'État, donc elles continuent à traiter les personnes en procédure accélérée, à tort. Et ça montre à quel point c'est absurde, en fait, parce que tout ça est toujours totalement déconnecté de l'histoire réelle des personnes. Donc le critère de la nationalité, il n'est pas valide en fait.
Ça change aussi d'un pays à l'autre en Europe, un pays qui est sûr, oui, pour la France.
Tout à fait. C'est pas homogène au niveau européen, même si les directives européennes autorisent le concept de liste des pays d'origine sûre. Nous, on essaye de faire du plaidoyer européen parce que ça nous déplaît. Mais en plus, c'est pas du tout homogène au niveau européen. Pourquoi ? Parce que chaque État gère ses flux comme il l'entend. Il y a ça aussi derrière. Oui, il faut que je sois plus rapide. Sur les chiffres, il y a cette année environ 60 000 demandes d'asile en France. C'est un chiffre qui, et c'est vraiment important de décortiquer la communication institutionnelle là-dessus, c'est un chiffre qui est en effet en constante augmentation depuis 2007. Donc, cette augmentation, en flèche, depuis 2007, elle conduit les pouvoirs publics à dire « Mais regardez, la demande d'asile explose, il faut vraiment faire quelque chose, ça va faire exploser le système, c'est l'invasion des sauterelles, on ne va pas tenir. Si on regarde les chiffres sur une marge plus large de temps, moi, je me suis amusée à aller chercher les chiffres des demandes d'asile depuis 1980. On voit qu'en effet, je ne sais pas comme c'était pour vous, hein, depuis 2007, ça monte. Sauf que depuis 1980, ça a fait comme ça. Donc c'est une courbe, vraiment c'est des montagnes russes, très régulières en fait. Tous les 10 ans, il y a un pic, il y a une redescente, au gré des crises humanitaires. Donc là, oui, on est sur le haut du pic. Parce qu'il y a la Syrie, parce qu'il y a, voilà, parce qu'il y a l'Irak, parce qu'il y a énormément de crises, parce que aussi la France, les puissances occidentales ont une action ou une omission à l'étranger, et qu'il ne faut pas s'étonner si des personnes désespérées essayent de traverser la Méditerranée. Tout ça est connecté. Mais là, il y a un pic, mais ce pic de 60 000 demandes d'asile de cette année, contrairement à ce que dit le gouvernement, il a déjà été atteint. Il a été atteint en 87, Il a été atteint en 94, il a été atteint en 2000 en gros. Alors que la population française était moins importante. C'est-à-dire que la proportion de demandes d'asile était plus forte. Il y a eu des pics plus importants que celui de cette année. Il y a à peu près 12% des demandeurs d'asile qui obtiennent gain de cause auprès de l'OFPRA. C'est-à-dire que les officiers de protection rejettent en gros 9 demandes sur 10. Ça crée autant de sans-papiers potentiels qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ne repartiront pas parce qu'ils ne peuvent pas repartir chez eux. Et des personnes qui réussissent à former un recours à temps devant la Cour nationale du droit d'asile, il y a pour 2013-2014 environ 10% qui obtiennent gain de cause. Ça ne fait pas 20%. Ça fait 12 plus 10% de ceux qui ont réussi à faire un recours. Et là encore, les pouvoirs publics disent « Ah bah vous voyez, ça fait plus de 80% d'échecs, donc ça veut dire que ça fait plus de 80% de personnes qui n'avaient pas de bonne raison de demander l'asile. » Le raccourci est un peu facile. Et c'est ça qui est la communication à la base de cette réforme en permanence. C'est pas parce qu'on a échoué qu'on était fraudeur ou que c'est de votre faute. Tout ce que j'ai démontré tout à l'heure, ça mène peut-être qu'on vous a privé des chances de réussir votre demande d'asile. Et enfin, qu'est-ce que les apatrides ? Alors, c'est un vaste sujet. Mais l'apatridie, c'est un concept un peu différent du statut de réfugié. C'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. C'est quelqu'un qui a... souvent, c'est des conflits de loi, en fait, et qui se retrouve sans nationalité. Peut-être parce qu'il est né sur un territoire qui n'a pas de reconnaissance étatique, ou parce qu'il y a eu des changements coloniaux, post-coloniaux, ou parce qu'on l'a déchu de sa nationalité pour des raisons politiques dans son pays et qu'aucun autre pays ne lui reconnaît de nationalité. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Mais c'est une situation d'extrême vulnérabilité juridique, parce que c'est comme si on retirait sa carapace à un escargot, quoi. C'est quelqu'un qui n'a plus de carapace de protection juridique, il ne peut se revendiquer de la protection par personne. Pour autant, c'est pas la même chose que le statut de réfugié, et encore aujourd'hui, les apatrides en France n'ont pas de réel statut et doivent demander à l'OFPRA la reconnaissance de la rapatridie. Enfin, ils ont le statut d'apatride, mais ils ne sont pas inclus dans la loi sur l'asile. Et là, cette loi de réforme de l'asile a aussi loupé le coche là-dessus, parce que cette loi aurait pu être une occasion de prévoir plus de protection et des mécanismes plus sûrs pour les apatrides, et ça n'a pas été fait. Donc Bernard Cazeneuve disait hier à la commission des lois qu'il comprenait que c'était un sujet très grave et très important, mais qu'il préférait réserver ça pour des prochains travaux parlementaires.
Michel, je voulais savoir, votre intervention tout à l'heure était extrêmement claire et documentée, je vous en remercie. Mais vous parliez de la commission des lois. Est-ce que, est-ce qualité, vous avez été entendu par la commission des lois comme personne référente compétente? Merci.
La deuxième, c'était aussi de savoir avec quelles associations vous travaillez en réseau et comment vous vous répartissez le travail, par exemple, entre la CIMAD, le réseau d'éducation, Centre sans frontières, etc.
D'autres questions?
Oui, on a tous compris que la procédure que vous nous avez présentée est très aléatoire, je dirais même à la limite arbitraire. Alors, qu'en est-il, si vous voulez, des différents réfugiés? Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les réfugiés politiques et les réfugiés, disons, d'ordre économique, ou bien donc qui viennent en France pour d'autres raisons, dans les aiguillages que vous nous avez indiqués tout à l'heure?
Pour le deuxième groupe, une quatrième question encore.
Pour la procédure accélérée, en fait, c'est la procédure subsidiaire. Jusqu'à présent, presque, ou pas. Alors, la protection subsidiaire, est-ce qu'elle... Non, la procédure prioritaire, excusez-moi, je me trompe. Procédure prioritaire, est-ce qu'elle est remplacée par la procédure accélérée? Oui. Alors, les procédures...